L'une des caractéristiques des gens célèbres est qu'ils laissent des traces derrière eux, des marques de leur passage sur Terre, et on se souvient de ce qu'ils ont accompli, et dit parce que c'est dans un livre ou un support médiatique. Il en est de même des personnages de l'Ancien Testament. Ainsi, parmi les prophètes, après Ésaïe, c'est Zacharie qui est le plus cité par les auteurs du Nouveau Testament, notamment par les écrits de la Passion et dans l'Apocalypse. Plusieurs prophéties de Zacharie ont déjà été accomplies par Jésus, comme celle rapportée par Matthieu qui décrit le Messie entrant dans Jérusalem, monté sur un ânon. Quand Zacharie dit « En ce jour-là, jaillira une source pour purifier de leurs péchés, de leur impureté, la famille de David et tous ceux qui habitent Jérusalem », il prophétise que c'est de Jésus que coule la source qui purifie du péché et qui donne la vie, ce que confirme l'apôtre Jean qui dit « Le dernier jour de la fête, le jour le plus solennel, Jésus se tint devant la foule et lança à pleine voix « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que celui qui croit en moi boive. Car, comme le dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de lui. » Zacharie prophétise aussi que le Messie sera rejeté, vendu pour 30 pièces d'argent, mis à mort et transpercé. Dans le livre de l'Apocalypse, l'apôtre Jean reprend plusieurs visions de Zacharie et s'inspire des tableaux peignant l'attaque de Jérusalem par toutes les nations, pour décrire Armageddon, l'ultime bataille livrée par les nations païennes contre le peuple de Dieu. Jean emprunte aussi à la vision de Zacharie qui voit Jérusalem transfigurée. Jean reprend également l'image de la fête des cabanes ou tabernacles, évoquant la célébration du salut dans la nouvelle création. Et Jean fait de l'agneau immolé aux 7 yeux la pierre d'angle sur laquelle est fondé le nouveau temple, qui sera construit au début du millénium. L'Évangile, selon Matthieu, cite Zacharie quand il rapporte les paroles de Jésus qui dit aux chefs religieux que sur eux retombera le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents, depuis celui d'Abel, le juste, jusqu'à celui de Zacharie, fils de Baraki, que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice. Baraki est bien le nom du père du prophète Zacharie, mais il ne devrait pas figurer ici, car c'est une altération du texte, une erreur de copiste ou un rajout malheureux. En effet, et pour commencer, Baraki n'apparaît pas dans le passage parallèle de l'Évangile selon Luc qui dit simplement « Depuis le meurtre d'Abel jusqu'à celui de Zacharie assassiné entre l'autel du sacrifice et le temple. » En second lieu, il est impensable que les colons juifs dirigés par Zorobabel et le grand prêtre Josué aient pu commettre un tel crime au moment même où ils obéissent à l'exhortation du prophète Agée en reprenant la construction du temple. Enfin, ni Esdras, ni Néhémie, ni le prophète Malachie ne font la moindre allusion à une fin aussi sordide. Le Zacharie dont parle Jésus n'est pas le fils de Baraki, mais le fils du prêtre Yojada, qui avait sauvé la vie du futur roi Joas quand celui-ci était encore bébé. Mais une fois au pouvoir, ce souverain rend le mal pour le bien. En effet, dans le second livre des Chroniques, on lit « Alors l'Esprit de Dieu se saisit de Zacharie, fils du prêtre Yojada. Il se présenta devant le peuple et dit « Voici ce que Dieu vous déclare. Pourquoi enfreignez-vous les commandements de l'Éternel ? Vous ne réussirez rien, puisque vous avez abandonné l'Éternel, il vous a abandonné. » Alors, les gens complotèrent contre lui, et on le tua à coups de pierre sur ordre du roi dans le parvis du temple de l'Éternel. Ainsi, le roi Joas oublia toute la bienveillance dont Jehojada, le père de Zacharie, avait fait preuve envers lui, et il fit tuer son fils. L'anomalie que je viens de signaler est l'occasion de rappeler que ce sont les manuscrits originaux qui sont inspirés par l'Esprit de Dieu, et non pas les copies de copies que nous possédons, et encore moins les traductions. Au fil des siècles, il s'est glissé ici et là des maladresses ou des erreurs que les spécialistes en exégèse tentent de corriger. Moi aussi, je préférerais que tout soit limpide comme du cristal sans le moindre défaut. Mais comme chacun sait, la perfection n'est pas de ce monde. Tout comme pour le livre d'Agée, dans le livre de Zacharie, les années sont comptées par rapport à un souverain païen, parce qu'il n'y a plus de roi israélite assis sur un trône. Depuis que les deux royaumes des 10 tribus du Nord et de Juda ont été rayés de la carte politique, le premier par les Assyriens et le second par les Babyloniens, nous sommes entrés dans une ère nouvelle que Jésus appelle le temps des nations, ce que nous rapporte Luc. Je commence maintenant de lire le livre de Zacharie. Au 8e mois de la 2e année du règne de Darius, l'Éternel adressa la parole à Zacharie le prophète, fils de Baraki et petit-fils d'Ido, en ces termes. « L'Éternel s'est violemment irrité contre vos pères. » Zacharie commence ses prophéties sur les chapeaux de roue. On voit tout de suite qu'il n'a pas l'intention de caresser ses auditeurs dans le sens du poil, bien au contraire. Il est bien vrai que ces 8 visions promettent la bénédiction de l'Éternel à Israël, mais elles sont précédées par une préface de 6 versets qui est un appel à la repentance. Il ne faudrait pas en effet que les Juifs s'imaginent un seul instant que Dieu va combler de bienfaits un peuple rebelle. Certes, l'Éternel tiendra les promesses qu'il a faites à leur ancêtre Abraham, puis au roi David. Elles seront tenues, mais ces contrats d'alliance ne dispensent pas chaque génération d'Israélites de se soumettre et d'obéir à Dieu. La préface du livre de Zacharie résume un discours qu'il a prononcé environ 3 mois avant la nuit où il reçoit la série de visions décrites dans ce qui suit. La voix du prophète s'élève une première fois en octobre-novembre de l'an 520 avant Jésus-Christ, à l'époque des pluies d'automne. Cela fait maintenant 17 ans que le peuple est revenu d'exil. 2 mois que le prophète Agée a commencé son ministère et 1 mois que les travaux de reconstruction du temple ont repris. Soit dit en passant, il semble que ce soit la prédication d'Agée qui a éveillé en Zacharie la conscience de sa mission et le souffle de l'inspiration prophétique. Comme au prophète Agée, l'Éternel adresse la parole à Zacharie. Cette phrase apparaît 14 fois dans ce livre. Zacharie, le petit-fils d'Ido, qui en ce temps était le chef d'une famille de prêtres. Cet homme avait fait partie de la caravane conduite par Zorobabel et Josué, qui était rentré du pays de Juda suite au décret du roi Cyrus autorisant les Juifs exilés à retourner chez eux. Par la voix de Zacharie, l'Éternel commence par rappeler aux colons les fautes commises par leur père et le terrible accomplissement des menaces que Dieu leur avait adressées par ses anciens prophètes. Littéralement, le texte dit « L'Éternel a été courroucé avec courroux contre vos pères », une phrase qui dénote une extrême colère. La ruine du royaume de Juda, la captivité babylonienne et la désolation du pays promis sont l'épreuve incontestable de la fureur de l'Éternel contre son peuple. Ce rappel a pour but de mettre en garde les Israélites qui se complairaient dans une fausse sécurité et donc de ne pas renouer avec les mêmes fautes que leurs ancêtres qui se sont rebellés contre Dieu. Je continue. « Dis à ce peuple, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Revenez à moi, dit le Seigneur des armées célestes, et je reviendrai à vous, a dit le Seigneur des armées célestes. Plusieurs décennies plus tard, le prophète Malachi répétera ces paroles disant, « Depuis le temps de vos ancêtres, vous vous détournez de mes lois, et vous n'y obéissez pas. Revenez donc à moi. Je reviendrai à vous, déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. » L'expression « le Seigneur des armées célestes » met en avant la toute-puissance de Dieu et ses ressources infinies. Elle revient 52 fois dans le livre de Zacharie et ici, comme un grondement de tonnerre. Elle claque coup sur coup 3 fois de suite. Cette insistance et l'appel de Dieu à son peuple sous forme de déclaration solennelle montre que dans leur cœur, les Israélites ont un réel besoin de revenir à l'Éternel. C'est trop facile, en effet, d'accomplir quelques actes pieux, parce que le plus souvent, les rites religieux sont un moyen détourné de se protéger du regard perçant de Dieu et de le tenir éloigné. Les Israélites offrent bien des sacrifices, ils ont effectivement repris la construction du temple, mais leur dévotion à l'Éternel laisse grandement à désirer, ce que le prêtre Esdras déplorera plus tard quand il dira « Ils ont épousé des filles de ces étrangers et les ont données en mariage à leurs fils. Ainsi, la descendance sainte s'est mêlée au peuple de ces pays. Les chefs et les dirigeants se sont les premiers rendus coupables d'une telle infidélité. » Alors que le prophète âgé a promis la prospérité aux Israélites dès qu'ils reprendraient la construction du temple, Zacharie leur dit que pour recevoir la bénédiction de Dieu, ils doivent servir et adorer l'Éternel dans leur cœur. Cette exhortation n'a rien de nouveau. En effet, dans le second livre des Chroniques, on lit que le bon roi Ézéchias avait fait dire à ses sujets « Israélites, revenez à l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, et il reviendra à vous, vous, les rescapés, qui avez échappé à l'emprise du roi d'Assyrie. N'imitez pas vos pères et vos frères qui ont été infidèles à l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres. C'est pour cela que Dieu a fait venir la dévastation sur leur pays, comme vous le constatez. Maintenant, ne soyez pas des rebelles comme vos ancêtres, engagez-vous solennellement vers l'Éternel. Revenez à son sanctuaire qu'il a consacré. » Revenir à l'Éternel est un appel qui est toujours d'actualité et qui s'adresse à tout croyant. Jacques écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, et purifiez vos cœurs, vous qui avez le cœur partagé. » Cette exhortation fait intervenir le libre arbitre et ma possibilité de choisir. Par contre, la prière de Jérémie, « Ah, fais-nous revenir à toi, ô Éternel, pour que nous revenions !» nous rappelle combien nous avons besoin de la grâce de Dieu. Car, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Philippiens, « C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Je continue le texte. « Ne faites pas comme vos ancêtres, que les prophètes d'autrefois ont exhorté en leur disant, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, abandonnez votre mauvaise conduite et renoncez à vos mauvaises actions. » Mais vos ancêtres n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté attention à mes paroles, l'Éternel le déclare. » On croit entendre les paroles du roi Ézéchias que j'ai citées plus haut, ou reconnaître la prédication du prophète Jérémie, qui, de toute évidence, 60 ans après sa mort, fait toujours autorité comme parole de Dieu. Non seulement les ancêtres d'Israël ont désobéi à l'Éternel, mais ils ont persisté dans leur révolte en refusant d'écouter les prophètes que Dieu leur envoyait. Ce n'est guère étonnant, puisque l'un des principaux aspects du message que l'Éternel adresse alors à son peuple est un appel à la repentance, une exhortation à renoncer à la mauvaise conduite et aux mauvaises actions. Je continue. Vos ancêtres, où sont-ils à présent? Et les prophètes, sont-ils toujours en vie? Ces deux petites questions de rhétorique sont très riches en signification. Pour commencer, il souligne la brièveté de la vie. Les ancêtres rebelles sont tous morts, massacrés, décimés par la famine ou la maladie, ou atteints par un autre malheur, comme l'avaient prédit les prophètes d'antan. Quant à ces derniers, leur ministère fut limité dans le temps, et ils ont eux aussi quitté ce monde. Il s'ensuit que les colons qui sont rentrés au pays doivent saisir au plus vite l'opportunité qu'il leur est offerte de revenir de tout leur cœur à l'Éternel au lieu de faire semblant. Par ces deux petites questions de rhétorique, Zacharie veut aussi établir un contraste entre, d'une part, les hommes qui, avant l'exil, ont soit entendu, soit proclamé la parole de l'Éternel, et d'autre part, cette parole elle-même. Les générations passées ont disparu, mais la parole reste bien vivante, ce que confirme l'accomplissement des menaces qu'elle renfermait contre le peuple infidèle. De plus, les avertissements de cette parole subsistent toujours, et ils s'adressent aussi aux colons si par malheur ils refusent d'écouter ces enseignements. Je continue. Or, les menaces de malheur, mes paroles, et les décisions judiciaires, mes décrets, que j'avais ordonné à mes serviteurs les prophètes de leur transmettre, n'ont-elles pas atteint vos pères ? Alors, ils ont reconnu et ont dit, « Oui, le Seigneur des armées célestes nous a traités comme il avait résolu de le faire, comme le méritait notre conduite et nos actes. » Les menaces que les prophètes ont prononcées contre le peuple ont été mises à exécution quand les Babyloniens ont mis fin à l'indépendance politique du royaume de Juda et ont détruit Jérusalem. Toutes les malédictions de la loi ont atteint les ancêtres du peuple qui ont bien été forcés de reconnaître que tout ce que les prophètes avaient prédit s'est réalisé. Le verbe traduit par « atteint » est alors utilisé dans un contexte de chasse pour signifier la poursuite et la prise d'un gibier. La génération d'Israélites décimée par les Babyloniens a été atteinte par les sanctions prévues dans le contrat d'alliance. Dans le livre du Deutéronome, on lit « Toutes ces malédictions fondront sur vous, vous poursuivront et vous atteindront, jusqu'à ce que vous soyez exterminés, parce que vous n'aurez pas obéi à l'Éternel votre Dieu en observant les commandements et les lois qu'il vous a données. » Je continue le texte. La deuxième année du règne de Darius, au 24e jour du 11e mois, le mois de Shébat, la parole de l'Éternel fut adressée à Zacharie le prophète, fils de Baraki et petit-fils d'Ido. Shébat est le nom du 11e mois babylonien. Nous sommes en février de l'an 519, 3 mois après la première prédication de Zacharie et 5 mois depuis la reprise de la construction du temple, suite à l'exhortation du prophète Agée, qui a terminé son ministère depuis 2 mois. Le 24e jour revient souvent à cette époque, 4 fois dans le livre d'Agée, et 1 fois ici, peut-être parce que c'est en ce jour-là que le peuple a repris le travail de reconstruction du temple. C'est donc une date bénie, et en se révélant en ce jour, Dieu veut montrer que ces manifestations sont une récompense à la fidélité des Israélites dans l'accomplissement de leurs devoirs. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Zacharie consiste en une série de 8 visions fantastiques. On a essayé de les réduire à 7 en réunissant en une seule les 2 visions du chapitre 5. Parce que dans les Écritures, 7 est le chiffre de la plénitude et donc ça sonne mieux que 8. Ces 8 visions ont pour but de réconforter les colons juifs en décrivant le futur programme de bénédiction que Dieu tient en réserve pour la nation d'Israël. Ces visions établissent un pont sur les siècles à venir, entre la reconstruction du temple de Jérusalem au temps du prophète Zacharie et Agée est l'instauration du royaume de Dieu par Jésus-Christ le Messie, qui reviendra sur terre pour régner pendant 1000 ans. Ces 8 visions se déroulent de la même façon. D'abord, quelques mots d'introduction, puis Zacharie décrit ce qu'il voit. Ensuite, il demande à l'ange avec qui il converse ce que signifie ce qu'il a vu. Et enfin, il reçoit l'explication demandée. Et 4 des visions ont la particularité d'être accompagnées d'un oracle qui la résume. Soit la fin, soit en plein milieu. La fenêtre prophétique ouverte par les 8 visions est clôturée par un acte symbolique, très riche en signification, puisqu'il s'agit d'une couronne royale que l'on pose sur la tête du grand prêtre Josué, et qui sert à préfigurer la venue du germe, un titre pour le Messie, et qui cumulera les fonctions de prêtre et de roi.